On va prier avant d'entamer un nouveau livre dans notre étude de la parole. Seigneur, merci pour ta parole sur laquelle nous pouvons fonder nos vies, car elle est la vérité, Seigneur. Nous sommes plongés dans un monde où il est difficile parfois de discerner ce qui est vrai et ce qui est faux. Il y a même des mots qui ont été forgés il y a très peu de temps, les fake news, les nouvelles fausses. C'est toute une culture du paraître, du mensonge, de la propagande. Et Seigneur, il est tellement reposant de pouvoir lire ta parole et savoir qu'elle est une bonne nouvelle, elle n'est pas une fausse nouvelle, Seigneur. Touche nos cœurs ce matin. On te remet nos frères et sœurs dans les différentes églises de cette ville, de cette région, de ce pays, qui se réunissent aussi autour de ta parole. Que ton Esprit Saint restitue la vérité de ta parole dans tous les cœurs et qu'elle transforme ton peuple en France, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à recevoir de toi. Parle-nous ce matin, comme toi seul peux le faire. Sois glorifié dans nos vies, dans nos cœurs, dans cette église, dans cette ville, Seigneur. Nous prions ces choses par le saint nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. On a terminé, la semaine dernière, l'étude de Malachie. Malachie qui était le dernier des petits prophètes. On a expliqué qu'ils étaient petits, non pas parce qu'ils n'étaient pas importants, mais parce qu'ils avaient produit peu de volume d'écrits. Il y en avait 12 par rapport aux grands prophètes, ceux qui ont écrit beaucoup, comme Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel. Et donc, aujourd'hui, on va entamer l'étude d'un nouveau livre. Et c'est toujours quelque chose d'excitant, toujours quelque chose de réjouissant pour celui qui prêche, mais aussi, ou pour ceux qui prêchent, mais aussi pour, j'espère que ça l'est pour vous aussi, de dire on tourne un peu, on a fini les petits prophètes, maintenant on va aborder quelque chose de nouveau. Et donc on va passer de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, ce qu'on fait régulièrement. On a le mercredi, on a le jeudi soir plutôt à 19h30, on a entamé l'étude de l'évangile de Marc. L'évangile de Marc, on est déjà au chapitre 11 cette semaine. Donc dans quelques semaines, on aura terminé cette étude. Et j'ai pensé qu'il était bon d'aborder le livre qui va vous aider à croire. Alors vous me dites peut-être, mais moi je crois déjà, j'ai pas besoin de croire davantage. On sait qu'il est dit dans Romains que la foi vient de ce qu'on entend, la parole du Christ. Sans la foi, on ne peut pas plaire à Christ. Et ça fait très longtemps qu'on n'a pas étudié ce livre. Ça remonte, pour une étude systématique, à 93. Il y en a peut-être qui n'étaient pas encore nés parmi vous. Et ce livre qui aide à croire, je le dis parce que dans ce livre, il est dit que Jésus a accompli encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie éternelle en son nom. Alors si vous avez une connaissance des évangiles, vous aurez reconnu l'évangile de Jean. Donc aujourd'hui, nous abordons l'étude de l'évangile de Jean. et sans doute quelque chose qui va nous prendre plusieurs mois, c'est l'évangile, ça veut dire euangelos, evangel, c'est la bonne nouvelle. On a dit de cet évangile qu'il était à la fois très simple et très profond, qu'il s'adresse aussi bien aux débutants dans la foi qu'aux chrétiens qui ont marché avec le Seigneur toute une vie. Et j'aime bien la comparaison que quelqu'un a faite en disant que c'était comme un bassin où un enfant peut patauger en sécurité, mais où un éléphant pourrait aussi prendre un bain. Donc, quelle que soit votre maturité dans le Seigneur, vous allez trouver des trésors dans cet évangile. Ce qui est remarquable, c'est que l'auteur, un dénommé Jean, donc, utilise un vocabulaire et une syntaxe très simple pour présenter des vérités théologiques les plus profondes. L'évangile de Jean est un évangile à part. On appelle les trois autres évangiles, l'évangile de Matthieu, de Marc et de Luc, on les appelle des évangiles synoptiques. Ça veut simplement dire que c'est des évangiles qui embrassent d'un même coup d'œil la vie de Jésus. Ils ont des accents particuliers, mais ils s'attachent à donner des descriptions parallèles de beaucoup d'événements semblables dans la vie de Jésus de Nazareth. Leur plan permet même de faire des comparaisons, des récits des mêmes événements. Et on se dit, mais pourquoi autant de descriptions différentes? Entre parenthèses, régulièrement, les magazines français et étrangers, lorsqu'il n'y a pas trop d'événements dans l'actualité ou qu'il n'y a pas d'événements nouveaux, vont sortir un numéro sur un nouvel évangile qui a été découvert. L'évangile de Thomas, l'évangile de Barnabé, l'évangile... Et ça, c'est notre curiosité qui fait qu'ils font ce genre de publication. Mais sachez que tous ces évangiles ne sont pas dignes de foi. Ce ne sont pas des évangiles qui ont été écrits par des apôtres ou des gens proches des apôtres. Et donc, ils n'ont pas à captiver votre attention. Vous pouvez vous concentrer sur les quatre évangiles qui sont dans votre Bible. Et je vous invite vraiment à vous en tenir à ça. C'est pas qu'il y a... Vous pouvez aller voir si le cœur vous en dit. Ces pseudo-évangiles qui ont souvent été écrits très longtemps après avec des buts bien précis d'encourager telle ou telle fausse doctrine. Ce qui est remarquable, c'est que près de 92% des événements ou des 92% de ce qui est affirmé dans l'évangile selon Jean ne se trouve dans aucun autre des trois évangiles synoptiques. Il y a des choses qu'on voit dans les trois premiers évangiles qui ne sont pas du tout mentionnées dans le dernier évangile, celui de Jean. La naissance de Jésus, les détails ne sont pas donnés. Le baptême de Jésus, sa tentation dans le désert, sa confrontation avec les démons, ses enseignements en parabole, la Sainte Cène, le dernier souper, l'agonie dans le jardin de Gethsémané, l'ascension de Jésus, on en parle dans les trois premiers évangiles, mais on n'en parle pas du tout dans l'évangile de Jean. Et en fait, le fait qu'il y ait plusieurs évangiles, ça ne devrait pas nous inquiéter en disant que peut-être ils se contredisent, peut-être qu'en fait, on ne sait plus à quel évangile se vouer. En fait, si vous faites l'analogie, par exemple, avec un reportage sportif, par exemple, sur un terrain de foot, pour un match important, vous allez avoir plusieurs caméras qui vont filmer l'action. Et chacune va mettre l'accent sur certains aspects du match. Par exemple, il va y avoir la caméra aérienne, maintenant avec les drones. On peut voir vraiment comment les attaques se développent. Puis il y a la caméra dans l'enclos du but pour voir si la balle franchit la limite. Et toutes ces caméras décrivent le même événement. Et donc, soyez rassurés, tous les évangiles décrivent les mêmes événements avec des spécificités. Pour comparer rapidement les quatre évangiles, on pourrait dire que Jésus est présenté comme le roi d'Israël dans Matthieu. Il est présenté comme le serviteur de Dieu dans Marc. Jeudi dernier, on a parlé de la question du serviteur. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? C'est Jésus qui posait cette question à ses disciples. Des fois, c'était sachant qu'ils allaient demander quelque chose qui n'était pas légitime. D'autres fois, c'était pour demander quelque chose de légitime. Mais c'est le serviteur sur lequel l'accent est mis dans Marc. Dans Luc, c'est le fils, c'est l'homme parfait plutôt. C'est le fils de l'homme, suivant l'expression qu'on trouve pour la première fois dans le prophète Daniel, qui est un titre messianique, mais dans Luc, on parle de la vie de Jésus avec beaucoup de détails. L'auteur était un médecin qui donnait beaucoup de précisions médicales, même sur certains phénomènes, à la croix notamment. Et puis dans Jean, en fait, Jésus est présenté là comme le Fils de Dieu. Luc, c'était le Fils de l'homme, l'homme parfait. Là, on va voir Dieu incarné, le Fils de Dieu, dans Jean. Matthieu, on pourrait dire qu'il s'adressait aux lecteurs juifs. Il fait beaucoup de références à l'Ancien Testament. Dans Marc, on pourrait dire qu'il s'adresse aux lecteurs romains, les gens de la grande cité de l'époque, de la grande ville de l'époque, la mégapole de l'époque des années après du premier siècle. Et on a vu, on l'a remarqué même, que Marc, son style est très vif. Il est un mot qui revient le plus souvent, c'est le mot « immédiatement » après ça. Et on a l'impression de voir un reportage à la façon de BFM TV, des petites choses qui sont décrites. Et souvent, les chapitres regroupent des événements qui n'ont pas nécessairement un lien entre eux, mais c'est décrit pour les Romains qui prenaient le métro à Rome, pour les gens pressés qui voulaient juste des informations. Il n'y avait pas de métro, hein, mais on est d'accord. Matthieu, Marc, Luc, Jean, lui, s'adresse à tous les hommes. Il va s'adresser à nos aspirations les plus profondes. On pourrait dire qu'ils ont des tons différents. Matthieu a un ton prophétique dans le sens où il prend des passages, des prophéties de l'Ancien Testament et montre comment elles se sont accomplies, comment elles vont s'accomplir en Jésus. Marc, encore une fois, c'est l'aspect, il a un ton pratique. Luc, c'est plus un ton historique. Luc était un grand historien. Il a écrit non seulement l'évangile de Luc, mais c'est lui aussi qui a écrit le livre des Actes. Et ce qui est remarquable, c'est que l'histoire non biblique, les historiens non bibliques, ont pu trouver des faits en faisant confiance aux descriptions historiques de Luc. Lorsqu'il dit que telle personne était gouverneur à l'époque de Jésus, on peut être sûr qu'il y avait vraiment un gouverneur de ce nom. Les quelques passages qui étaient mis en doute il y a 100 ans, ont depuis été vérifiés. On pouvait faire confiance à l'historien qui était Luc. Jean, lui, il a un ton essentiellement spirituel. Il nous fait partir vers le haut. Les idées maîtresses dans Matthieu, c'est la loi. Il revient aux 10 commandements, il revient à l'ancienne alliance et montre comment elle est réalisée en la personne de Jésus. L'idée maîtresse dans Marc, ça serait la puissance, les miracles que Jésus a accomplis. Dans Luc, l'idée maîtresse, c'est la grâce de Dieu. Cet amour qu'on ne mérite pas, mais qui pourtant nous est abondamment déversé dessus, si je puis me permettre cette mauvaise expression. Dans Jean, l'idée maîtresse, c'est la gloire de Dieu. On va décoller avec Jean. Si par moment on peut penser que Marc, par exemple, c'est assez terre à terre, là on va décoller. Ce qui est merveilleux lorsqu'on étudie la Bible dans son ensemble, pas en campant sur certains livres qu'on refait ou certains passages qu'on étudie sans arrêt, c'est qu'on peut, glaner, on peut retirer des différents passages des informations et voir qu'il y a une harmonie surnaturelle. Une harmonie surnaturelle dans la Bible. Il y a entre les quatre évangiles, les quatre évangélistes, un rapport avec les quatre êtres vivants qui sont décrits dans l'Apocalypse, au chapitre 4, versets 7 et 8, où les animaux tirant les chars dans la vision d'Ézéchiel, au chapitre 1, les versets 1 à 14 d'Ézéchiel, et même dans le livre des Nombres, il y avait des prescriptions pour indiquer comment les Juifs devaient camper lorsqu'ils voyageaient. Et dans le livre des Nombres, au chapitre 2, on voit qu'il y avait des bannières, des drapeaux qui flottaient aux quatre coins. À l'est, c'était la tribu de Juda qui était en premier lieu. Et la tribu de Juda, elle avait un drapeau qui représentait une bannière, une oriflamme qui représentait le lion. Au sud, c'était la tribu de Ruben qui était en première approche, la première rencontrée. Et là, c'était un bœuf ou un veau qui était sur leur bannière. À l'ouest, c'était la tribu d'Éphraïm avec sur leur drapeau un homme. Et au nord, c'était la tribu de Dan avec un aigle. Et on associe souvent, alors je vais juste regarder quand même Apocalypse 4, si vous voulez vous y tourner, ou vous pouvez attendre que je lise Apocalypse 4. Devant, c'est une description du trône de Dieu. C'est assez spectaculaire. Il est dit qu'au milieu et autour, devant le trône, il y a aussi, comme c'est le verset 6, devant le trône, il y a aussi comme une mer de verre qui a la transparence du cristal. Au milieu et autour du trône se tiennent quatre êtres vivants, couverts d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant ressemble à un lion. Le deuxième à un taureau. Le troisième ou un veau, le troisième a le visage d'un homme, et le quatrième ressemble à un aigle en plein vol. Et on retrouve ces quatre lions, bœufs ou taureaux, hommes et aigles. Encore une fois, on les retrouve sur les oriflammes du campement d'Israël dans la traversée du désert, dans la description des animaux ailés qui tiraient le char de Ézéchiel. Et souvent, on les retrouve en fait dans ces évangélistes. On a dit que Le lion, c'était le symbole de l'évangile de Matthieu. Encore une fois, c'est le roi d'Israël, le roi de Juda. Le bœuf, c'est le serviteur. Les bœufs, on les utilise pour labourer, ils aident, ils servent l'homme. L'homme parfait, c'est Luc, donc c'est la représentation de l'homme. Et puis, l'aigle, c'est le Fils de Dieu de Jean. Donc c'est intéressant de voir cette harmonie entre des choses qui ont l'air complètement séparées, mais ça c'est la signature de Dieu. Et lorsque les éditeurs de l'Express ou du Point s'excitent sur un soi-disant évangile de Thomas, il ferait mieux de s'exciter sur les merveilleuses coïncidences, entre guillemets, que l'on trouve dans le texte biblique officiel reconnu. Et nous, ça devrait nous susciter une curiosité de rechercher encore plus davantage, de voir qu'est-ce qui est dans la parole qui ressemble en fait, qui sont des signatures de Dieu. Ces quatre, lion, bœuf, homme et aigle, c'est ce qu'on appelle des fois, vous allez apprendre un mot savant, le tétramorphe des évangélistes. Ça veut dire la forme de quatre formes différentes pour une même description du même Jésus. Et cette conception, en fait, de ces quatre êtres, lion, bœuf, homme et aigle, vous la trouvez si vous visitez, si vous regardez des monuments, des cathédrales, des églises. Vous allez en Italie, vous allez en France et vous allez regarder, vous allez voir ces quatre représentations, très souvent du lion, du bœuf, de l'homme et de l'aigle. Maintenant, vous saurez pourquoi. C'est pour montrer la perfection de la description de Jésus dans les évangiles. Mais là, on va s'attacher, donc, on va décoller avec Jean et on va parler de l'aigle qui s'envole, de texte qui est adressé à tous les hommes, qu'ils soient grecs, qu'ils soient juifs, qu'ils soient romains, qu'ils soient athées, croyants, tous les hommes bénéficient de l'évangile de Jean. C'est l'évangile spirituel par excellence et il parle de la gloire de Dieu. Le mot « gloire » c'est le mot grec « doxa ». Et le mot « doxa », ça veut simplement dire, on en a parlé jeudi soir. Je vous invite d'ailleurs à venir, si vous êtes curieux de la Bible, ce n'est pas seulement pour ceux qui connaissent pas encore la Bible. On fait des études et vous pouvez poser des questions, approfondir les choses. La « doxa », c'est l'opinion. Il y a un journal qui s'appelle « L'Opinion », mais le sens qui a résulté de ce premier sens, c'est une bonne opinion. Une opinion de que quelque chose est vraiment super. C'est l'idée de gloire de Dieu. Donc souvent, lorsqu'on parle, c'est aussi un terme un peu savant, je m'excuse d'utiliser ces termes, mais si vous les connaissez, vous pouvez les remettre dans leur... les imbriquer dans votre schéma de la Bible, on parle de la doxologie. Doxa, c'est la gloire, et c'est dire des choses glorieuses sur Dieu. Lorsqu'on chante une doxologie, lorsque Paul, à la fin de Romains, dit s'extasie devant la puissance de Dieu, il fait de la gloire, il parle de la gloire. Pour présenter cet évangile, on doit se poser les fameuses questions qui doivent vous aider lorsque vous lisez quoi que ce soit. Si vous avez un tant soit peu de sens critique, vous devez vous poser ces questions. Descartes disait que le sens critique était la chose la mieux partagée au monde. Comme on dit en anglais, « I beg to differ ». Je ne suis pas d'accord avec ce grand philosophe Descartes. Vous devez vous demander qui dit quelque chose. Surtout à notre époque des réseaux sociaux, où il suffit de lancer n'importe quoi sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, sur Snapchat, j'en passe des meilleurs, Alibaba et Amazon. Vous dites n'importe quoi et ça peut être officiel. Qui, où, quand, quoi, comment, pourquoi ? Ça doit être, ces questions doivent être vos amis. Qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi ? Sinon, on vous fait avaler n'importe quoi. Et je vous ai déjà repris, certains ont tendance à reprendre une alerte sur Facebook disant que s'il y a quelqu'un qui vous dit bonjour, ça commence par bonjour, faites attention, ça va détruire votre disque dur. Il y a des sites qui vous expliquent si c'est des canulars ou des mensonges. Vous pouvez aller voir, je peux vous en indiquer quelques-uns, mais avant de répandre des mensonges, allez vérifier vous-même en disant qui, où, quand, quoi, comment, pourquoi. C'est pas facile à dire très vite, mais qui ? Jean l'évangéliste. Il ne faut pas le confondre avec Jean-Baptiste, dont il va beaucoup nous parler. Jésus avait surnommé Jean et son frère Jacques les fils du tonnerre, taran, taran, les Boanerges, faisant sans doute référence à un tempérament énergique et explosif. Leur papa était un patron pêcheur qui s'appelait Zébédée. C'est un joli prénom, ça, Zébédée, qu'on trouve plus souvent maintenant, mais si vous cherchez des prénoms pour un enfant. Leur mère s'appelait Salomé. Jean était un de ces habitants de Galilée qui avait suivi Jean-Baptiste avant de devenir un disciple de Jésus. Il a été choisi par Jésus comme l'un des 12 apôtres. Et après l'ascension de Jésus, il est devenu un des piliers de l'église de Jérusalem avec Jacques et Pierre. On dit souvent que Jean, Jacques et Pierre faisaient partie un peu de la garde rapprochée de Jésus. On sait que c'est eux qui ont Jésus appelé pour prier avec lui, c'est eux qui l'ont vu transfiguré sur le mont de la Transfiguration. Selon la tradition, ce n'est pas expliqué dans la Bible, on pense qu'il est venu habiter à Éphèse. Éphèse, c'est en Turquie, en Asie mineure, juste avant la destruction de Jérusalem en l'an 70. Il a été finalement déporté sur l'île de Patmos, où on a essayé de le martyriser en le plongeant dans de l'huile bouillante. Il en est réchappé, on lui a laissé la paix, et il a pu écrire l'Apocalypse, la Révélation. Il était, d'après sa propre description, le disciple que Jésus aimait. Ça semble un peu orgueilleux, mais il le disait sans nécessairement dire qu'il s'agissait de lui. Mais il se savait aimé par Jésus. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous pouvez vous dire « Je suis le disciple que Jésus aime » ? Est-ce que vous savez aimé par Jésus ? Il ne s'agit pas de savoir si c'est vrai ou faux, c'est de savoir qu'il vous aime vraiment. Où ? Qui ? Où ? On pense que cet évangile a été écrit à Éphèse, cette ville que l'on peut voir en Asie mineure aujourd'hui. Quand ? Qui, où, quand ? On pense qu'il a été écrit à la fin de la vie de Jean, donc dans les années 60 à 90 de notre ère. Les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc ont été écrits beaucoup plus tôt. À l'époque, Jean était probablement le dernier témoin oculaire de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Quoi ? Jean décrit Jésus comme le Fils de Dieu. Il le décrit, il affirme, sans le mettre en doute, le fait que Jésus est Dieu. Les trois premiers évangiles parlent surtout du ministère en Galilée. L'évangile de Jean parle du ministère à Jérusalem. Il va décrire les trois dernières années et demie de ministère de Jésus en se centrant notamment sur sa mort sur la croix et sur sa résurrection. Qui, où, quand, quoi, comment ? Il décrit ce qu'on appelle des miracles. Il décrit 7 signes miraculeux qui prouvent la divinité de Jésus. Et il rapporte de longs discours de Jésus où Jésus affirme clairement, solennellement sa divinité. 6 de ces miracles ne sont pas décrits dans les autres 3 évangiles. On a dit, vos amis, ça doit être qui, où, quand, quoi, comment, pourquoi. Jean nous donne la réponse dans son évangile. Et c'est ce qu'on avait commencé à lire au tout début. Jésus, au verset 30 et 31 du chapitre 20, Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Il y a même un passage où il est dit que si on devait décrire tous les événements et tous les miracles de la vie de Jésus, il n'y aurait pas assez de livres dans le monde pour le faire. Jésus continue d'agir. Il agit dans votre vie. Il veut agir dans votre vie. Tous les événements qui se passent dans votre vie, imaginez si on devait les écrire dans un livre. Quand on fait une autobiographie, on choisit quelques événements, mais il est présent jour et nuit avec vous. Son esprit est à l'œuvre en vous. Il vous connaît comme s'il vous avait fait. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui vous a fait. Ceci est écrit afin que vous croyiez, que vous ayez la ferme conviction que Jésus est le Christ, le Messie, l'envoyé de Dieu, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie éternelle en son nom. Pour que vous ayez la foi qui donne la vie. Jean veut convaincre de tout son cœur, de toute son énergie, de tout son zèle que Jésus-Christ est Dieu et que le salut de ses lecteurs ne se trouve en aucun autre personne. C'est pas avec de la médecine, c'est pas avec de la politique, c'est pas avec de l'éducation que vous allez avoir la vie éternelle. Il veut nous faire comprendre que Jésus est Dieu incarné. Il parle, on va lire quand même le prologue, le début du texte. Il veut nous faire comprendre que Jésus est Dieu incarné. Il parle de la parole éternelle. Les vieilles traductions parlent du Verbe. Le Verbe s'est fait chair. La parole éternelle s'est incarnée. Il est venu sur terre. Dieu, le Dieu tout-puissant qui a mis en branle toutes les galaxies, l'univers. On n'a pas notre astronome, astrophysicien présent ici, il est à Marseille, Thomas. Mais Thomas peut vous parler de ce qu'il il fait des recherches dans les galaxies. Il fait une thèse sur les ondes gravitationnelles. C'est des termes que j'utilise sans savoir la moindre idée de ce que ça peut représenter. Il y a des ondes qui pèsent ou qui gravitent. C'est prodigieux. Et ce Dieu tout-puissant, il est venu sur terre. Il est venu sur terre pour prendre nos péchés, pour nous donner la vie éternelle, mourir en sacrifice pour nos péchés. C'est prodigieux, c'est prodigieux. Si c'est vrai, et j'espère qu'en arrivant au verset 20-31, vous en serez convaincus, Jésus est vraiment le Fils de Dieu, il s'est incarné, et en lui, vous pouvez avoir la vie éternelle. Tous vos problèmes, tous vos préoccupations, tout cela pâlit complètement vis-à-vis de l'immensité divine et de l'immensité de l'amour et de la grâce de Dieu. Mon souhait, c'est que notre foi prenne une nouvelle dimension. Notre foi, elle est tellement limitée par nos propres expériences, par nos propres limitations. Dieu, il est comme l'océan. On peut boire une gorgée d'eau, on peut en boire trop qu'on en recrache. Mais cette puissance divine, cette eau de vie, elle est à notre disposition. Et si on n'a pas des vies qui semblent nous satisfaire, c'est parce qu'on ne va pas boire de cette eau de vie. C'est parce qu'on n'est pas... On n'a rien compris. On pense que oui, il y a un Dieu parce qu'il faut une explication et c'est aussi bien que la théorie de l'évolution. Les évangiles, en fait, qui décrivent cette vie de Jésus commencent à des points différents. Matthieu, il commence à la naissance de Jésus-Christ. Marc, il commence au baptême de Jésus-Christ. Luc nous parle juste un peu avant la naissance de Jésus-Christ. Jean, lui, il remonte beaucoup plus loin. Il remonte à l'éternité passée de Jésus-Christ. L'éternité, je plaisante souvent que c'est long, surtout vers la fin. C'est pas moi qui ai trouvé cette blague, c'est Woody Allen. Mais l'éternité passée, c'est très long. Et on va lire le prologue, c'est-à-dire les premiers versets. Et je vais vous demander de vous lever pour vous réveiller, peut-être, et pour montrer notre respect. J'aime toujours penser que le passage qu'on étudie aujourd'hui, c'est le plus important de toute la Bible. Et quelque part, c'est vrai, puisqu'on est en train de passer du temps sur un passage. Dieu nous a fait qu'on étudie un tel passage. Mais il y a quelques passages dans la Bible. C'est un passage que je vous invite à apprendre par cœur. Il y a des passages où on a vraiment l'impression d'être en terrain sacré. Il y a Romains 8, par exemple, qui est un autre passage comme cela. Il y a des passages dans les psaumes qui sont des passages où on devrait être saisi par le sacré. Écoutons ensemble, lisons ensemble. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié « C'est celui à propos duquel j'ai dit « Celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. » Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et je vous donne rendez-vous à dimanche prochain pour expliciter ces versets. Je vous invite à les lire, à vous poser des questions. Je vous invite à, pourquoi pas, apprendre par cœur ces passages, si vous ne les connaissez pas déjà par cœur. Mais c'est... J'espère que vous sentez que c'est... Ça va être excitant. Amen.